9h41 sur France Inter, merci d'ouvrir bien grand votre antenne à l'instant.
Merci d'être avec nous ce soir.
C'est ça quand on est en direct.
Dimanche, passation de pouvoir à l'Élysée, mobilisation générale des journaux, télés et radios pour couvrir l'un des événements les plus importants de notre vie publique. Un rituel républicain, certes, mais également un rituel médiatique, car tout dans cette succession de cérémonies est conçu pour faire symbole. Comment mettre en scène une arrivée au pouvoir? C'est au fond la question que pose votre documentaire, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria. Bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous connaissez très très bien cette maison pour l'avoir en partie dirigée. Jour de sacre à l'Élysée sera diffusé le soir même sur France 5 à 20h50.
L'instant M. Tous les médias sont sur France Inter.
Il lutte là, il passe, magnifique, merveilleux, cross, au black, et Isco marque à quelques minutes de la fin de la première période. Quel but!
Énorme cataclysme sur le marché des droits du football. SFR Sport vient de rafler tous les matchs de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa pour la période 2018-2021. Il faudra donc, pour que vous compreniez bien, être abonné à SFR pour voir Monaco-La Juve, comme mardi soir, ou Lyon-Ajax d'Amsterdam, comme ce soir. Coup dur, coup très très dur pour Canal+, et beIN, qui se partageait la Ligue des Champions, et pour M6, qui diffusait certains matchs de la Ligue Europa. Le licenciement pour faute grave de Patrick Menet, le créateur du zapping. J'espère que vous avez reconnu le pspst, est devenu légendaire depuis. Le zapping de Canal+, viré par son actionnaire Vincent Bolloré, serait annulé par le ministère du Travail, chargé d'arbitrer le conflit. C'est une info de nos confrères du site Les Jours. L'autorité aurait tranché en faveur de Patrick Menet, ce qui lui permettrait de toucher des indemnités de départ. Menet exerce aujourd'hui ses talents sur France 2 avec un montage d'actu intitulé « Vu ». Ça y est, Laurence Bloch, la directrice de France Inter, nous l'a annoncé hier. Après le départ de Frédéric Schlesinger, ex numéro 2 de Radio France, nommé maintenant patron d'Europe 1, voici que Patrick Cohen, notre matinalier, et que Emmanuel Perrault, notre directeur des programmes, y vont également faire peu ou prou ce qu'ils faisaient à France Inter. Je précise au passage que Patrick Cohen connaît sur le bout des doigts tout le cinéma français des années 70.
C'est une histoire très agitée des démêlés de certains hommes.
Je vous fais peur ou quoi?
Non.
Avec certaines femmes.
Ça me fait chier.
Qui ne sont pas nécessairement les leurs.
Et qu'Emmanuel Perrault aime les Cure et le ska.
Hey you, don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. One step beyond.
Ce qui ne vous dira rien de leurs compétences professionnelles à tous les deux, mais vu que la concurrence les débauche, c'est qu'ils sont plutôt très bons. Toutefois, France Inter ne manquant, il faut le savoir, ni de personnalité, ni de talent, ni de mordant. Léa Salamé et Nicolas Demorand, nouveau duo qui claque, reprendra le 7-9 de la maison dès la saison prochaine. Voilà, le hasard veut qu'il m'arrive très rarement de donner ici des infos relatives à France Inter et qu'aujourd'hui je le fais devant deux anciens directeurs des programmes de la chaîne que sont Patrice Duhamel et Jacques Santamaria. Toutes ces petites affaires les font sourire, n'est-ce pas messieurs?
Oui, mais Patrice Duhamel a été bien plus que directeur des programmes. Oui. Directeur de programme, il était directeur général.
Il a été directeur général. Oui. Bien, rendons le général à son directeur. Donc, alors, passons à ce documentaire que donc vous signez, vous co-signez tous les deux. Après ce livre qui vient juste d'être réédité chez Plon, Élysée, Histoire, Secret et Mystère, c'est donc une nouvelle édition. Le documentaire sera diffusé sur France 5 dimanche soir, le jour J, à 20h50.
C'était pas prévu, c'est un hasard. Hein.
Comment ça, c'est un hasard?
On n'avait pas été prévenu ni par Emmanuel Macron ni par François Hollande parce que le documentaire, on l'a commencé il y a 7 ou 8
que
mois.
Que ça aurait lieu voilà. Le dimanche,
oui.
Vous, journaliste politique et ancien patron de France Télévisions, vous allez me faire croire à cette coïncidence absolument incroyable.
C'est la première fois que c'est un dimanche.
Non.
Et à l'heure de la messe.
Non, pardon.
Non, mais sous la Ve République.
Ah, sous la Ve République, oui.
Bien.
Parce qu'autrement, un dimanche est déjà arrivé. Nous n'étions pas là, ni les uns ni les autres. C'était en 1906 pour le président Armand Fallières.
Voilà, ça c'était du Jacques Santamaria dans le texte. Alors, c'est un rituel précis, je l'ai dit, c'est également une construction médiatique. Tout ici est fabrication d'images destinées à entrer dans l'histoire. Donc c'est ce que nous allons retenir hein, ce matin de ce documentaire très, très fouillé, très chargé. Il y en a 90 minutes. On va peut-être laisser de côté des histoires assez inattendues et croustillantes sur les cuisines ou encore le mobilier de l'Élysée. Moi, je vais garder ce qui relève de la mise en scène médiatique qui sonne en fait, et on l'explique dans le film, le passage de la conquête du pouvoir, hein, qui a été la campagne, au pouvoir lui-même, qui est donc ce jour de l'investiture. Des images de télévision, nous en avons depuis quand sur cette cérémonie ?
On a d'abord des images de cinéma.
Oui.
Depuis la 4e République, depuis l'arrivée de Vincent Auriol. En 1947, on en a aussi pour son successeur, René Coty, et bien entendu pour les débuts de la 5e République avec le général de Gaulle.
En redingote.
En redingote, en janvier 1959.
Voilà.
Je pense que le général ne savait pas qu'il était l'avant-dernier à être en jaquette.
Ce jour-là.
Voilà, puisqu'il n'y a plus que Georges Pompidou après.
Et l'art des petites phrases, parce que quand René Coty accueille Charles de Gaulle le 8 janvier 59 à l'Élysée, on appellerait ça aujourd'hui la petite phrase, puisqu'il a dit « Le premier des Français devient le premier en France ». C'était vraiment...
c'est formidable. Parfait, tout est symbole et tout est pensé pour être symbole. Alors, dans ce film, vous déroulez cette journée d'investiture par le menu, du matin au soir, en pointant les passages obligés républicains, mais également les ruptures. Et Valéry Giscard d'Estaing, c'est vraiment le maître des ruptures. Il quitte le ministère des Finances au volant de sa propre voiture.
J'étais au volant, sortait de Rivoli, on est allé jusqu'au carrefour Clémenceau. Et là, je suis descendu de la voiture. Je suis allé à pied en suivant l'avenue Marigny. L'avenue était bourrée de monde.
Valéry Giscard d'Estaing, en costume de ville, précisons-le, a tout fait à pied. Il est arrivé à l'Élysée, il a également été jusqu'à l'Arc de Triomphe à pied. Il est reparti de l'Élysée quelques années plus tard, à pied également.
Et après Patrice son au revoir célèbre, il est allé à pied aussi au fond de la salle des fêtes. Et ça a duré un bon moment.
Jacques Santamaria.
Oui, mais il appelait ça dans un documentaire précédent sur lui, il appelait ça les petits trajets.
Les petits trajets. Mais justement, revenons à ce précédent documentaire que vous avez consacré à Valéry Giscard d'Estaing. On le voit très bien dans ce précédent film. C'est un maître aussi de la télévision émergente et qui s'impose à l'époque comme le média de masse. Sûr. Donc il maîtrise totalement et il pense l'image médiatique.
Et quand il arrive à pied par l'avenue de Marigny, il s'arrête pour embrasser ses deux filles qui sont là, et tout ça est en direct à la télévision, dans le public.
Jacques Santamaria. Mais
c'est une entreprise de communication, c'est la première, la première du genre. Mais la grande rupture, elle est visible, il fallait qu'elle soit visible. Et c'est quoi ? C'est le costume de ville. Parce qu'en fait, je vais peut-être vous surprendre, mais il n'est pas le premier à être venu à pied. Sous la 5e République, oui, mais sous la 3e République, il faut savoir que le premier à être venu à pied de son ministère, qui était le ministère de la Marine, jusqu'à l'Élysée, c'est Félix Faure.
Ça ne lui a pas porté bonheur.
Et trois ans après, ça se terminait beaucoup plus mal que Giscard.
Voilà, alors comme tout doit être visible et rendu visible, il y a le costume, il y a venir à pied, il y a aussi ce fameux collier.
Qu'il ne porte pas autour du cou.
Voilà, le collier de la Grand Couest, ça fait partie du rituel.
Et ça a été très compliqué dans les jours qui ont précédé, parce qu'il tenait absolument à ce qu'on lui présente sur un coussin pour que ça soit quand même plus moderne, qu'il ne soit pas obligé de mettre ça autour du cou. Il paraît que c'est très lourd en plus. Mais à la Légion d'honneur, à la chancellerie, ils n'ont pas beaucoup aimé parce que c'était quand même la grande tradition française qu'on mette ça autour du cou.
Il fallait que tout soit image d'une France nouvelle, Jacques Santamaria.
Que tout soit image d'une rupture, qui soit visible et perceptible par tout le monde, par tous les Français, par tous les téléspectateurs, et en même temps, qu'ils soient rassurés. C'est la fameuse formule de Giscard, le changement dans la continuité. Ça commence là, mais d'abord le changement. Montrer le changement d'une manière extrêmement visible, immédiatement.
Alors, je reviens un instant sur ce collier, sur cette grande croix, puisque ça fait partie des passages républicains obligés. Vous diffusez un moment de télé que sans doute tout le monde a oublié. C'est le neveu du général de Gaulle qui a utilisé la télévision. Il était le général. Lui aussi, il a voulu démissionner pour ne pas...
Le gendre.
Il a voulu démissionner pour ne pas avoir à décorer François
Mitterrand. Le général de Boissieu a démissionné. Il était grand chancelier de la Légion d'honneur. Il a démissionné parce qu'il ne voulait pas donner ce collier à François Mitterrand, qui, selon lui, avait insulté son beau-père. On se souvient du livre de Mitterrand, Le coup d'État permanent. C'est vrai que c'était très violent. Mais ça a provoqué plus que des remous, une énorme polémique.
Et il en fait un coup d'éclat médiatique.
Oui, absolument.
Ce qui est extrêmement rare. Et pour les De Gaulle et pour l'armée.
Il va à la télévision régionale, là où, à côté de là où il habitait, pour faire une déclaration face caméra. C'était tout à fait saisissant.
C'est saisissant. Alors, il y a aussi des maladresses qui mettent à mal le rituel, qui donnent du grain à moudre aux journalistes, qui se perdent parfois en conjectures et en interprétations diverses. On va réécouter ce qu'on a pu penser d'un moment qui est quand même très joli à revoir, assez émouvant. On est en 1995. Mitterrand rend le pouvoir, d'une certaine manière, à Chirac.
Il descend l'escalier, et là, M. Chirac, vraisemblablement par gentillesse, descend l'escalier du perron avec le président. Ça ne se fait pas. François Mitterrand essaye de l'arrêter en disant non, c'est pas votre place. Non. Et au milieu du tapis rouge, enfin, le président Chirac comprend qu'il ne faut pas qu'il aille lui ouvrir la portière.
Monsieur Mitterrand qui s'en va seul vers sa voiture.
Parce qu'il était l'État et il ne l'était plus.
Ce qui est passionnant dans cette histoire, c'est le mélange entre ce qu'on appelle le protocole et ce qui deviendra un symbole, une image, Jacques Santamaria.
Oui, mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que, véritablement, on peut appartenir à la même famille politique et ça peut être terrible et glacial. Exemple, Sarkozy-Chirac. On peut ne pas appartenir à la même famille politique, Chirac-Mitterrand, et ça peut admirablement bien se passer avec une gentillesse, oui, une sorte de douceur. Et en ce qui concerne Chirac vis-à-vis de Mitterrand, une reconnaissance. Il faut être clair, politiquement, sans Mitterrand, sans l'appui, le soutien plus ou moins secret de Mitterrand.
Alors, il y a cette reconnaissance, il y a cette marque d'estime et de gentillesse. Mais on comprend très bien ce qui se niche dans ces images de télévision. C'est-à-dire qu'il y a un moment, l'État ne redescend pas du perron vers le parking.
Oui, parce que le protocole est très précis. Oui. Il n'est pas lourd, mais il est très précis, le protocole. Le nouveau président ne doit pas descendre les escaliers du perron. Il va jusqu'à la première marche, mais il ne doit pas descendre avec son prédécesseur les escaliers du perron.
Alors, Patrick
et Chirac s'affranchit de tout ça.
Ça va être intéressant dans 3 jours.
Va être intéressant.
Parce que moi, j'ai toujours trouvé que dans les images entre Mitterrand et Chirac, il y avait plus que de l'affection, il y avait presque de la tendresse.
Oui.
Puis il y a plus l'histoire du bureau.
Donc vous attendez de voir comment François Hollande.
Le bureau du général que Mitterrand fait réinstaller pour Chirac, etc. Là, ça va être intéressant parce que depuis une semaine, Hollande. C'est les gestes vis-à-vis de Macron, il ferait pas ça avec son fils, quoi.
Alors justement, François Hollande, le jour de sacre de François Hollande, par l'inverse, c'est-à-dire il a tourné les talons à Nicolas Sarkozy.
Oui, il est même pas sorti du vestibule.
Voilà.
Alors,
il y revient dans ce documentaire en disant « pur oubli, pure maladresse de ma part, je n'ai pas voulu être offensant ». Vous y croyez ?
C'est assez difficile à décrypter, visiblement, parce que ça fait partie des moments mystérieux de ces journées, puisqu'ils ne sont que tous les deux, il n'y a jamais un témoin. Visiblement, ça s'était très mal passé entre les deux. Il s'était balancé dans la passation de pouvoir, des choses personnelles sur la manière dont leur femme ou compagne avait été traitée, l'un par l'autre, etc., etc. Ça s'est très mal passé.
Donc ce moment de leur accompagner, c'est juste à l'issue de cet entretien.
Et Hollande, il a toujours
été,
dès le début, et moi, ça c'est position d'un point de vue de journaliste, je peux me tromper, mais obsédé par Sarkozy. Et je pense qu'il dit, mais qu'il s'en aille, je veux plus le voir, et je rentre. Et il n'est même pas allé jusqu'à la première marche, effectivement, et loin de la première marche du perron. Mais l'image est extraordinaire.
L'image
quand on la revoit, elle est extraordinaire.
Et elle restera.
Mais je pense que dans 3 jours, on va en avoir dans le sens inverse. Et on peut même imaginer que ça soit un peu too much, quoi.
Les paris sont ouverts.
Il a failli l'embrasser, l'Arc de Triomphe.
Les paris sont ouverts. Oui. Alors, il y a cette succession d'images protocolaires. Et puis, il y a des choses que chaque président ajoute ce jour-là. Des choses extrêmement pensées, construites, pour la télévision, en tout cas, aujourd'hui. On sait que Chirac, par exemple, a commencé par se recueillir à Colombey. Ça n'était pas rien. Colombey, c'est chez De Gaulle. François Mitterrand, lui, va décider de terminer cette journée en déposant une rose, notamment sur la tombe de Jean Jaurès au Panthéon. Serge Moati, tout jeune à l'époque, tout jeune journaliste de télévision, est chargé de filmer l'événement. Or, en plein direct, il perd sa trace à l'intérieur de la crypte, l'horreur.
Et je demande à tous les opérateurs, où il est. Et ils font ça, ça veut dire, ils balayent leur champ, il n'y a plus de Mitterrand. Et là, a commencé une espèce de folie, dans le cas Régis, où j'étais. Une espèce de folie. Il y a d'abord Defferre qui est derrière moi, qui est nouveau ministre de l'Intérieur depuis le matin, qui m'a dit, retrouve-le. Il me prend comme ça. Retrouve-le.
Voilà, ça peut être les ratés de cette journée. On a retrouvé le président, comme dirait Serge Moati. Après, il est resté là pendant 14 ans. On l'a pas perdu très longtemps. Sarkozy au Bois de Boulogne pour Guy Môquet. François Hollande a choisi Jules Ferry. Ce sont des hommages conçus pour donner le ton, Jacques Santamaria, à la fois pour s'inscrire dans l'histoire et pour donner la tonalité de ce qui va arriver.
C'est la force symbolique qu'on cherche à faire passer. Il faut voir que dans la Ve République, Mitterrand a été le premier à avoir l'après-midi une action symbolique. Ensuite,
Plus du protocole et des cérémonies,
Il n'y en avait pas eu avant, ni Giscard, ni Pompidou, ni le général de Gaulle n'avaient eu. Tout s'était arrêté à l'Arc de Triomphe à la mi-journée. En revanche, sous la 4e République, Vincent Auriol était allé l'après-midi au Mont Valérien. Donc il y avait déjà un précédent. Mais personne n'avait imaginé l'éclat du Panthéon avec
déjà l'eau de la joie.
Avec déjà l'eau de la joie. Mais on voit bien que Mitterrand, c'est 81. Il y a Moati qui arrive dans...
C'est très nouveau pour l'époque.
Bah, oui. Mais là, il y a une bascule médiatique dans le symbole.
Il y a une bascule médiatique qui est évidente et qui a, je crois que c'est évident pour tout le monde, qui a inspiré Emmanuel Macron l'autre jour pour sa soirée de victoire. Mais ça veut dire une chose, c'est que maintenant, de la soirée de victoire jusqu'à la journée d'investiture, il va falloir s'habituer à de la mise en scène.
C'est ça.
Et à quelque c'était chose de pensé médiatiquement.
C'était absolument flagrant.
Comme en 2007, l'image de la famille recomposée, Cécilia arrivant avec... Le fils qu'elle a eu avec Sarkozy, ses deux filles d'un autre mariage et les deux fils de Nicolas Sarkozy d'un premier mariage, c'était aussi évidemment voulu. Et c'était la première image dans ces circonstances-là. Imagine le général de Gaulle, comme disait François Fillon, avec tante Yvonne qui arrive avec les enfants.
Personne de sa, le général de Gaulle n'a pas voulu qu'un seul membre de sa famille assiste à la...
Oui, absolument. Voilà, l'Élysée, l'histoire, secret, mystère...
Il y en aura des images comme ça dans trois jours,
il y en aura
un paquet,
hein. Un paquet,
je pense des deux côtés.
Le livre, il est chez Plon, et le film, il est dimanche soir sur France 5. Quel heureux hasard de programmation, chers amis. Merci à tous les deux. Bonjour, Ali Rebelli.
Bonjour, et le livre est formidable, et je fais partie du fan club de Jacques Santamaria.
C'était peut-être pas le moment de le dire.
Qu'est-ce que le racisme? C'est le thème ce matin. Question, témoignage, réaction, 01 45 24 7000.
Ce sera juste après les infos.